Vous avez des jeux sombres et inconnus là-dedans. Mm-hmm. On regarde peut-être un jour votre jeu, si vous voulez, je peux dessiner votre jeu sur une carte.
Alors.
C'est moi le jury, c'est moi l'arbitre, ok.
Ok, donc le titre.
Il y a le titre, il y a une image, il y a
le développeur. Plateforme et le publisher.
Ça va, j'ai pas des trucs trop obscurs.
Ah, il y en a quelques-uns que je connais pas.
Il y en a un que je connais pas.
Ah, moi pas qu'un seul.
Et donc du coup, là, j'ai pioché une question.
Tu connais les trucs?
Quelques-uns.
Vous avez 30 secondes pour choisir celui qui est le plus satisfaisant pour ses mécaniques. Mécaniques de jeu.
Bon, c'est facile.
Après, faut argumenter.
Alors ouais, VVVVVV. pour moi, en fait, ça avait vraiment...
Attends, il manque rien.
Je pensais qu'on explique, ok.
Ouais,
après
ça, il faut...
Ah ouais.
Ah ouais, ok.
Ouais, moi, VVVVV, et c'était pour notamment, je trouve que ça a réinventé pas mal le jeu de plateforme, avec l'histoire de la gravité, ça m'avait pas mal surpris à l'époque quand j'y avais joué. Je sais pas si vous avez déjà testé...
J'ai vu pas mal de fois du coup jouer.
Ouais, notamment, en fait, on saute et d'un coup, on se retrouve au plafond, donc il y a des mécaniques un peu comme celle-ci. Mm-hmm. C'est un jeu de plateforme, un peu comme... Ça illustre pas mal un peu la DA. Et ouais, ça m'avait pas mal surpris là-dessus. Et c'est un jeu, il date maintenant, ça doit avoir dit la date, ouais, 2010. Donc ouais, dans les mécaniques, c'était la surprise de trouver quelque chose de nouveau dans le jeu de plateforme qui est
ouais,
pas mal.
Ouais, ça faisait partie du renouveau un peu de la plateforme indé à l'époque.
Carrément, ouais.
J'ai mis Wii Sports parce que... on a tous joué à Wii Sports, quoi. C'est un peu le truc qui a démocratisé la Wii. En plus, je pense que c'est le jeu le plus... C'était pas pendant un temps considéré comme le jeu le plus vendu ou quelque chose comme ça, parce que c'était vendu avec la Wii et du coup, chaque personne qui avait une Wii avait Wii Sports. Et de toute façon, c'est hyper simple mais hyper efficace. Enfin, même les non-joueurs peuvent s'amuser, ça fonctionne. Quand je compare à aujourd'hui le jeu de lancement de la Switch, comment ça s'appelle, avec les mini-jeux.
En plus,
faut l'acheter, One to Switch.
Ah, ouais, non,
Et c'est très mauvais, alors que gratuitement avec la Wii, avec ça, c'était top.
D'accord.
Quasiment chaque jeu était hyper intuitif déjà. Et à la fois, tu pouvais masteriser, devenir bon, quoi. Donc, franchement, je trouve que c'était une réussite. J'ai passé trop d'heures à jouer au ping-pong.
Là, t'avais le tennis, le bowling.
Il y avait tennis, bowling, il y avait ping-pong.
La boxe, moi je suis sûr.
Il y avait la boxe, il y avait un truc d'avion peut-être, d'Etlaplane, je crois.
Ah, le ski? Non, le ski c'était, je sais plus.
Ouais. Moi c'est le ping-pong qui m'a.
Ouais, il était pas mal, c'est vrai.
Ouais, c'est simple et efficace, quoi.
Ouais.
Et alors, Julien, Cow, Clicker?
Eh bien, moi simplement, c'est mon Joker, c'est une carte, c'est un jeu que je connais pas du tout. Donc j'en ai gardé 2-3 que je connais un peu. Je sais pas ce que c'est.
C'est ta carte poubelle.
En même temps, c'est bien choisi. C'est un idle game, quoi, en mode cookie clicker. Donc, en gros, tu génères des cookie clicker, tu génères des cookies en cliquant. Et après, tu peux acheter des upgrades qui te font générer des cookies automatiquement et tout. Et en fait, il n'y a pas de finalité. Le but, c'est juste d'avoir de plus en plus de cookies, quoi. De plus en plus vite. Et c'est des trucs hyper addictifs. Et donc ouais, c'est des mécaniques hyper simples, donc ouais, en fait pour le coup c'est hyper addictif, satisfaisant et simple.
Ouais, mais
débloque des choses, le fait de posséder...
C'est juste débloquer des trucs et...
Et visuellement, t'as plus en plus de... Ouais. Comment dire, au début c'est juste des mamies qui c'est en pixel art, t'as juste une... T'achètes ta première mamie qui va créer ses cookies, ouais. Ensuite t'en rachètes, il y en a 2, 3, etc. Après tu vas acheter des usines à cookies, ensuite tu vas acheter des... je sais plus, ça grossit, et à chaque fois, il faut de plus en plus de cookies. Et chaque mamie.
C'est quoi le rapport avec les vaches hein?
C'est la même chose avec les vaches.
C'est le même concept, ouais.
D'accord.
Cookie Clicker, mais ça,
alors, c'est
plus
même
vieux que Cookie Clicker.
Quelle année?
2010, Cookie Clicker, ça a dû sortir en 2012-2013.
D'accord.
De mémoire, enfin, si je me situe au moment où j'ai découvert ça, que tout le monde
C'est plutôt mobile.
Non, ça se joue sur
navigateur. Bah en fait, moi je me souviens juste le son du.
Ouais.
En fait, ça commence, t'as un gros cookie, faut appuyer dessus, et du coup, ça génère à chaque clic.
Mais c'est assez dingue le concept parce que c'est du jeu où tu joues pas. En fait, c'est bah, comme son nom l'indique, idle game quoi. Tu lances le truc et t'attends que ça génère tout seul.
Ouais, c'est ça.
Il y a même des gens qui installent des autocliqueurs dans leur vie, clic pour eux quoi. C'est trop bizarre, mais ça fait fureur. Ça, non.
Moi je serais plus Wii Sports.
Ouais.
Ah ouais. Aller Wii Sports. Pas parce que ça parle à tout le monde et. Bon, c'est pas un dé, hein. Mais parce que ça parle à tous les âges et puis qu'on soit joueur ou non joueur, on peut s'y aller.
C'est vrai. En même temps, je l'avais pas dans mon
lexique. C'est pas non plus si simple à créer quoi, ça paraît trop facile de faire un jeu de ping-pong.
Non, ouais, mais c'était. Ben. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire pour démocratiser leur contrôleur. Reconnaissance de mouvement quoi, il fallait un jeu de sport où les gens connaissent les règles de base. Donc tu connaissais déjà tu sais jouer au tennis, donc t'avais pas besoin de réapprendre un jeu. Et voilà, mais à la fois ben, ça te faisait apprendre les contrôles. Donc c'était vraiment ouais. Carton plein pour Nintendo à cette époque.
Ah non, c'est vous, c'est lui qui gagne, moi je récupère les cartes.
Attends, tu
gagnes un point.
On gagne des trucs.
Ah c'est d'accord, c'est toi qui es venu en fait.
Ah c'est moi, je dis que je suis
d'accord. Ok.
Et
du coup, on a une carte en plus à chaque fois, on recomplète.
Ouais,
ouais,
d'accord. Là, c'est pas mal ça, je connaissais pas du tout. Ah, putain.
On dit pas de gros
mots. Ouais, c'est vrai ce que je t'en ai à me dire.
Tu peux dire des gros mots si tu veux.
Bon, ça va, j'en connais encore deux. Ah.
Alors.
Ah oui, quel est le plus méditatif?
Waouh. Méditative.
Voilà,
bah là je vais mettre des choses que je connais pas en fait.
On va laisser les autres parler.
Ah bah
ouais, 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 t'as
sorti.
Battu tout le monde aussi.
Ah ouais,
ça. Bah oui, t'as sorti la carte que tout le monde imagine.
Sérieux?
J'ai pas joué à ça, je sais pas ce que c'est.
Ouais,
t'as déjà joué à Flo?
Non. Ils ont fait un remaster récemment.
Ouais.
Les gars de Monkey Island. Non, Monkey Island c'était LucasArts, mais les gars de.
Fandango.
Ouais, Game
Fandango. Ah, Game Fandango.
Ah, bah ça, j'ai pas joué. Non, je ne connais pas.
C'est Tim Schafer.
Oui.
D'accord.
Mais je suis pas très méditatif.
Non.
Bah non, mais c'est parce que je connaissais pas, parce que en tout cas, les autres, je suis sûr.
Ouais, pour le coup,
parce
moi,
que lui, il a mis Flower, ça.
Bah oui, non, mais clairement.
Mais vas-y.
Ça, tu connais ça, tu vas dire.
Mais oui,
ouais, voilà.
J'ai tellement médité que.
Ouais, c'est parfait.
Il pouvait pas te
ça veut expliquer ce que c'était.
Bah non.
Bah c'est David Company, les mecs, on fait Journey. C'est leur deuxième. Ils avaient fait Flow.
Flow,
ouais.
Donc c'est le deuxième Flower. Et c'est en fait, tu contrôles le vent, je suppose.
Ouais.
Tu contrôles les pétales de fleurs et tu pollinises en fait un champ. Gauche, c'est un truc méditatif.
C'est vraiment méditatif.
C'est sympa. Ouais, c'est, j'étais avec la PS3, c'était au début, c'était notamment avec le DualShock, tu pouvais. Gyroscope en fait. Voilà, tu diriges.
C'est chouette. C'est parmi les premiers jeux que Sony a beaucoup mis en avant parce que. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression moi que c'est Sony qui va chercher un petit peu les trucs plus expérimentaux.
Bah, Dead Game Mode New, c'est.
Voilà, et c'était Sony qui avait vachement mis en avant ça à l'époque, je m'en souviens.
Donc j'ai gagné ce round.
Bah ouais, bah, carrément.
Mais et du coup, c'est. Ok, donc ça, c'est Burnout, c'est une grosse connerie. Ouais, non, bah ça, non, c'est le plus stressant possible.
C'est ça.
Parce que tu gagnes ta jauge de boost et plus tu prends des risques. En gros, tu as roulé à contresens, tu as joué ou pas à Burnout?
Non, non. Mais je vois un peu le.
Voilà, c'est entre.
C'est méditatif en fait.
Non, on est presque entre du Daytona USA et puis du Destruction Derby. Si on parle des anciens. Tu jouais à la Destruction à l'époque? Voilà, bah du coup, là, ça, c'est un bon. Moi j'ai beaucoup joué à Burnout, j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, Grid Fandango, je.
Bah, il y a un reboot.
Ils ont fait un remake. Je crois que c'est cette année qui est sorti.
Ouais.
Là. Il y a deux
récemment
mois,
ou fin de l'année dernière. Mais...
Et c'est chouette, bah, c'est point and click, aventure, ambiance originale toujours. Et le jeu de Double Fine, c'est les ambiances.
En tout cas, t'as gagné malgré toi.
Hein. Yes. Ouais.
D'accord.
Tu contrôles un détective privé squelette, je crois.
Squelette.
Dans un monde néo-noir un peu étrange. C'est chouette.
D'accord. Alors. Oh là là là.
Les images sont assez étranges parfois.
Oui, je sais pas si c'est un seul et même illustrateur, mais en tout cas, c'est pas toujours. Je sais pas comment on traduit sexiste ou qui sexualisé.
Bien le plus sexy.
Le plus sexy, ouais.
Le plus sexy.
Ouais,
sexy.
Wow.
Alors, je vais fonctionner au visuel.
13.
À l'image. Je crois pas que ce soit très...
Ouais, je dirais là, c'est là où les joueurs sont les plus sexy, pour ceux qui maîtrisent bien.
Ouais.
Dance Dance Revolution.
Ouais, ça peut être sexy.
Moi, je trouve pas ça sexy, les gens qui appuient sur leur truc de croyance.
Ah, ah, ouais. Ceux qui maîtrisent, ça peut être sexy. Hein. Ouais, il y a une maîtrise du truc.
Je vais mettre ça.
Ah. Alors là, ça ne dit rien du tout.
Non plus.
1989.
Ouais, c'est
pole position.
Ça doit être un vieux jeu d'aventure.
Ah bon, moi j'ai un jeu de voiture.
La pole position.
Ah oui, pole position, j'avais même pas lu.
Ah, c'est super sexy, hein.
Ah ouais, ça peut peut-être.
Non. Oui, peut-être, il a de belles lunettes.
Reste, tu vois ce que c'est?
Moko, il a l'air un beau gosse quand même.
C'est un jeu de rythme musical. Enfin, tu dis que tu vois un mec, donc c'est vu de derrière. Et le mec, en fait, tu le déplaces, et il doit... c'est comme un peu un shoot'em up, on va dire, mais dans un univers ultra-musical.
Ah oui, je vois, si, je connais.
Très...
C'est une espèce de wireframe,
un peu...
Avec tous les bruitages qui collent un petit peu à la musique.
Exactement.
Ah, et ils ont pas fait un, ils ont fait une suite virtuelle,
un petit peu. Sur PS4.
Comment ça s'appelle déjà?
Res Revolution.
C'est ça?
Non.
Il y en a un qui a un autre nom.
Non, c'était Stadium.
Il y en a un qui s'appelle pas Res.
Avec une japonaise au milieu, c'est un mode beaucoup plus.
Mais il y a un nouveau Res qui est sorti il y a peu de temps, là, en tout cas, ou c'est peut-être une réédition.
Je reste sur mon choix alors.
Ouais, je m'en souviens du jeu.
J'ai jamais essayé, mais il y a une grosse communauté de gens qui adorent quoi.
Moi j'adore, il est ouf ce jeu. Mais en fait avant il s'appelait Projet K, parce que c'est K comme Kandinsky, parce qu'il part du principe que la lumière, la couleur et les images sont toutes en lien et donnent des émotions, et que du coup c'est sur les différentes sensations qu'on peut avoir qui sont liées en fait.
Est-ce que c'est sexy?
Bah ça fait un peu pièce d'art je trouve. Enfin le truc que tu
c'est clairement
plus.
Comme une œuvre d'art.
Ouais voilà, ouais, il y a le côté sexy, branché, tu vois.
C'est ça.
Ah si on voit d'un côté branché, ouais, vas-y, clairement un côté. Allez, t'as 2 points.
Voilà.
Ils t'ont aidé, hein. Moi le premier qui arrive à 3.
Putain mais sans connaître les jeux, t'as un bon film finalement.
En fait on c'était Lotman, mon associé, qui m'a fait découvrir Raz. Pour un moment donné, on voulait faire une recherche sur le fait de lier les sons avec la musique. Et d'avoir une espèce d'objet musical comme ça, tout unifié. Enfin, pour moi, Res, c'était réussi et raté à la fois, en fait.
Ah ouais?
Qu'il y avait des trucs.
Ouais. Mais tu avais joué ou t'as juste
joué? Ouais, j'ai joué, ouais. Et j'ai trouvé qu'au niveau du game feel, justement, par rapport au lien entre la musique et le sound design, il y avait des trucs qui étaient ratés. Il y avait des trucs qui étaient. Je crois qu'à un moment donné, enfin, c'est comme un shoot'em up, quoi. Tu tires aussi. Au moment où je tirais, j'avais pas de sensation, je trouvais que c'était trop mou. Il y a des choses au niveau du. Par contre, ce qui était intéressant, je trouve, c'est la polyrythmie, en fait. Ils ont voulu avoir un rythme global entre le sound design et la musique. Et des fois, ça se décale un petit peu, ça c'était intéressant. Mais par contre, le fait que ça se décale au niveau du game feel, je trouve que je perdais. Parce que des fois, ils décalent un peu les sons pour que ça se rende en rythme avec la musique.
D'accord.
Mais du coup, au moment où je tire et que je shoot quelqu'un, je vais entendre le son tout de suite. C'est pas une fraction de
seconde. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est le côté musicien.
Peut-être,
ouais. Parce que moi, je suis nulle en musique et en rythme, et j'ai kiffé, parce que aussi... t'es à l'intérieur d'une machine, enfin je sais plus, mais un lien avec, enfin il y a un truc philosophique au milieu, enfin je sais plus exactement l'histoire, mais le scénario, il y avait un scénario en fait dans tout ça, je me disais, je serais incapable de dire c'était quoi là, mais ouais il y avait un truc
avec
Eve ou je sais plus, mais au milieu il se passe un truc, il y a une entité qu'on doit anéantir au milieu,
t'arrives au centre de la galaxie et
qui gouverne tout ça, mais
comme dans No Man's Sky quoi.
Je me rappelle plus exactement, mais c'était sympathique.
En tout cas, bien ficelé, quoi. Ouais, ça nous a apporté des nouvelles façons de voir les choses, parce que eux avaient déjà creusé dans ce sens-là, donc tu vois ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc ouais, il y a des choses vraiment.
Mais c'était pour quel jeu que vous avez?
C'est pour Color Panic. Pas encore. Qui est justement très abstrait, et très tourné sur une musique un peu house, techno, tout ça. Donc voilà, ça nous a donné un petit peu des perspectives de ce qui, enfin pour moi, de ce qui marche et ce qui marche pas.
Parce que là, du coup, là, vous êtes dans ta boîte, c'est quoi le nom de la boîte?
La Goulou Studio.
D'accord, vous êtes combien dedans?
On est 2 associés.
2 associés, ouais. Là, donc il y avait le jeu, le quiz, Martinique, Antillais.
Bah, Antillais, c'est la
Martinique.
Oui.
Antillais, ouais.
Et du coup, à côté de ça, vous avez fait d'autres jeux.
On a pas mal de jeux en prod. Ça fait 2-3 ans qu'on a Soccer Dash. Ça, c'est vraiment notre tête de gondole. Donc, ça sera vraiment un gros jeu mobile type platformer shooter.
Ouais.
Et on a Color Panic, qui est un peu une espèce de jeu d'arcade difficile à décrire comme ça avec des mots. Tu dois changer de couleur pour t'adapter à certaines situations, ce genre de choses. Et on a Street Soccer Heroes, qui est un petit jeu en pixel art d'action qui tourne autour du foot, qui est en prod aussi.
Et le premier c'était un jeu de foot aussi,
en... Soccer Dash, ouais. Ouais. C'est comme une espèce... Enfin, en général, les gens qui le voient, ils disent ah, on dirait Super Mario avec un ballon de foot. Ouais.
Le trip. Et Scooter of Love, c'était pas un beau jeu ou c'était un trip seulement?
Scooter of Love, c'était notre premier mini-jeu qu'on a sorti. En fait, Scooter of Love, c'était une manière de se tester avec Hotman. On s'est dit ok, on se donne un mois, on fait un mini-jeu, on voit si on s'entend au niveau professionnel, au niveau personnel, est-ce qu'on peut machin, etc. Et puis c'est pour tester le marché aussi, moi j'étais pas dans le jeu vidéo, donc c'était un tout nouveau marché pour moi.
Tu faisais quoi avant, tu sais pas?
Musicien.
Ok.
Donc,
c'est toi qui t'occupe de la musique sur les projets aussi?
Non, j'ai pas le temps.
Okay.
C'est ce que je pensais faire au début, c'est pas possible. Et en fait, Scooter of Love, c'était aussi une manière de se faire connaître le plus rapidement possible par un milieu que je connaissais pas du tout. Donc c'est un jeu qui touche à la politique. Il y a Hollande, Obama, voilà,
ça. Donc c'était en 2012.
C'était en 2000. Ouais. C'était l'année où Hollande s'est fait choper sur son scooter.
Ok.
Voilà. Il était déjà président là, je sais plus.
Ouais.
Ouais,
en fait, il y a eu une semaine un petit peu démentielle cette année-là, où dans la même semaine, il y a Hollande qui s'est fait choper sur son scooter. Il y a Flappy Bird qui a été retiré des stores parce que le créateur a dit ah, j'assume plus.
Ouais.
Et il y a eu la même semaine Obama qui a été soupçonné d'avoir une liaison avec Beyoncé en fait. Donc en voyant ça, on s'est dit ok, on va se taper un gros délire. Donc on a mis un scooter avec Hollande et Obama.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, et qui devaient fuir leur femme pour atteindre leur maîtresse en fait.
D'accord.
Alors l'idée c'était, c'est là où on a surtout mis l'accent, c'est vraiment de faire quelque chose de respectueux et de marrant.
C'est un runner
et, c'est un espèce de Flappy Bird en fait.
D'accord, ouais.
Et l'idée c'était pas de faire un truc insultant parce que c'est pareil, quand j'ai découvert le monde des jeux mobiles, j'ai vu sur Android, mais il y a des jeux hallucinants quoi. Genre il y a un jeu, t'as Obama, tu lui balances des couteaux, tu le flingues dans son bureau ovale en fait. Mais et ça passe tranquille.
Ouais.
Tu vois, donc nous c'était vraiment l'idée, c'était de faire quelque chose de très respectueux et très marrant. Et du coup ça a marché, c'est-à-dire, je crois 10 jours après, c'est passé sur BFM TV.
Ah oui.
On a eu je sais pas combien d'articles. Et en arrivant, la première fois que j'ai découvert Capital Games, en fait, les gens nous connaissaient déjà. Et la première fois qu'on a fait un salon, c'était le Pixel Tech, je crois, à Nîmes. Les gens nous connaissaient déjà. Donc, quand tu connais personne dans un milieu complètement à découvrir pour toi, et que t'as déjà des liens qui nous fascinent, parce qu'on a entendu parler de ton projet, et surtout c'est un projet qui faisait marrer les gens, donc quelque chose de positif. Ben, ça a fait exactement ce qu'on lui demandait. Nous, avec mon associé, on s'est dit ok, c'est cool, ça matche bien. Et puis ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans l'établissement d'un réseau. Mais c'est pas un jeu que je cite parce que c'est un mini projet que on l'assume, mais bon.
Vous avez visé juste
en termes de qualité et tout ça, c'est très vite fait, donc ça rentre vraiment pas dans notre catalogue.
Mais vous aviez visé juste au moment
où on a eu le résultat que je voulais avoir avec ce projet. Exactement.
Et du coup, donc
pour répondre plus rapidement à ta question, sans faire toute l'énumération des projets en prod, on a pas mal de projets qui sont toujours en prod, et les seuls projets qui sont sortis, c'est en effet Oupassave, et son équivalent dans le foot, c'est Football Quiz Deluxe, qui n'est pas encore tout à fait terminé, qui est déjà sorti, mais qui n'est pas encore... disons qu'il n'y a pas encore beaucoup de questions dedans, pour un Et voilà, les autres projets sont en prod, sachant que vraiment notre tête de gondole, c'est Soccer Dash. Tu connais bien Soccer Dash, tu as bien essayé.
C'est le temps.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Vous êtes que deux dessus, sur chaque projet?
Non, on a un team de 10 personnes, mais on est deux associés.
D'accord, donc ouais, vous avez des salariés en fait?
Non,
des prestats. Des prestats, d'accord. Ouais. Et pourquoi l'idée d'avoir différents projets en même temps en fait? Comment gérer ça? Pourquoi vous avez une bonne idée, vous dites bon, on la rajoute, on le lance parce qu'on est motivé, c'est le moment de la bonne idée ou...
Non, mais pour chaque projet, il y a des raisons différentes. Par exemple, Street Soccer Heroes, c'était vraiment une façon pour nous de déléguer un projet à des codeurs qui ne seraient pas moi en fait, parce que tous les autres projets c'est moi qui les ai codés. Celui-là, on s'est dit ok, on va essayer de sortir vraiment de la prod, tous les deux, et juste de gérer le projet en fait, avec un codeur externe, avec des graphistes externes, etc. Donc en fait, sur chaque projet, on teste aussi des nouveaux process, des choses comme ça. Pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Sur Soccer Dash, j'aurais jamais testé un truc comme ça parce que c'est un projet qui est beaucoup trop important que je vais l'arrêter. Donc je délègue du code. Parce que justement, par exemple, sur un projet comme Street Soccer Heroes, Ça m'a permis de voir ce qui marche, ce qui marche pas au niveau de l'embauche, au niveau de la qualification des gens. Le codeur qu'on a pris par exemple était... Ben, faisait pas l'affaire finalement. En fait. Mais ça, tu te rends pas forcément compte le jour de l'entretien,
ouais.
Ni les premières semaines, parce qu'il peut y avoir un petit peu un écran de fumée, un peu soit dans l'attitude, soit dans le vernis technique, où tu dis ouais, c'est cool, il assure. Et puis finalement, au bout d'un moment donné, quand tu regardes dans le code, tu fais waouh. Mais ça, normalement, on l'apprend au collège, non?
Au collège, pas encore.
Et là, t'as 30 ans, donc c'est compliqué.
D'accord.
Donc voilà, ça permet de voir un petit peu, de prendre un petit peu d'expérience. L'idée, c'est toujours de prendre de l'expérience.
D'accord. Donc, c'est marrant comme...
C'est ça l'idée, quoi. Après, il y a vraiment d'autres raisons. Je pense qu'il y a vraiment des raisons très précises sur chaque projet de pourquoi on les a lancés, en effet, qui sont de cet ordre-là, en fait. Qui sont de cet ordre-là. On a fait beaucoup de... Ah si, on a quand même pas mal de jeux qui sont déjà sortis, mais en presta, donc on a fait pour des clients.
D'accord.
Eux aussi, ils ont des raisons d'avoir été faits, c'est-à-dire que pourquoi Soccer Dash est tellement en retard, c'est qu'à un moment donné, il faut manger, il faut faire rentrer de la thune dans la boîte. Et donc là, on a commencé à faire pas mal de presta, et ça nous a mis grave à la bourse sur nos projets propres, en fait. Mais les presta avaient un intérêt à l'époque, c'est que Soccer Dash c'était du Java, c'était du libGDX. C'était une lib que j'avais choisie parce que c'était la plus performante en fait sur le marché. Et bizarrement, quand je suis arrivé dans le milieu et que j'ai fait des recherches sur comment on fait un jeu, c'est quoi les moteurs, c'est quoi les trucs, Unity n'est jamais remonté à la surface et c'était en 2014. Et pourtant j'en ai fait des recherches. Il y a eu Corona, il y a eu libGDX, il y a eu patati patata, et j'ai jamais vu Unity que j'ai découvert 6 mois après en discutant avec des gens. Et sur le coup, ça m'a pas spécialement intéressé, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe vraiment bas niveau en fait. J'aime pas trop les trucs au niveau où à un moment donné il y a une boîte noire, tu sais pas trop ce qui se passe. Et si la boîte noire fait pas ce que tu veux, bah t'es foutu quoi. Ça c'est arrivé à des potes en Corona par exemple. Les mecs ils arrivent à la fin du projet, ils veulent développer un truc qui est hyper important. Ah bah c'est pas possible, ah bah problème quoi. Donc j'étais pas très chaud pour des solutions comme Unity, plus c'est bas niveau plus ça m'arrange. Et là où j'ai décidé de changer en fait, c'est par rapport à toutes les third parties qui tournent autour du jeu vidéo. Dès que j'ai commencé à avoir des contacts avec des sociétés de back-end, des sociétés diverses qui te vendent des services que tu veux recoder forcément, bah, ils ont tous des SDK pour Unity. Mais par contre, pour du Java et pour du libGDX, ça fait rien en fait. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, pour gagner beaucoup de temps, il va falloir se former sur Unity juste pour ça en fait. Pas pour la facilité du code, parce que c'est pas... Je trouve que Unity a plus un intérêt pour les gens qui savent pas coder. Mais sinon, si tu sais coder, je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est de gagner beaucoup de temps, de ce que ça peut, justement par rapport aux connexions avec les autres boîtes, etc.
Et l'export aussi.
Et le service.
Ensuite, l'export. Il y a différentes plateformes qui est privilégiée quand même avec Unity.
Ouais, mais il y a d'autres solutions pour ça. En libGDX, ça marchait aussi. Quoi. MonkeyX le fait aussi. Enfin, il y a plein d'autres qui le font très très bien. Quoi. Mais là c'était vraiment ça en fait, c'était vraiment ça. Donc du coup on a pris pas mal de presta justement pour pouvoir se former sur Unity mais en étant payé en même temps en fait.
D'accord.
Donc des petits jeux, vraiment c'est de l'advert game, on a fait des jeux pour une boîte d'assurance, on a fait des jeux pour des particuliers, pour d'autres sociétés de jeux qui ont sous-traité, etc. Mais vraiment l'idée c'était de monter en compétence sur Unity.
Okay.
Voilà.
Et toi Phil, t'as fait de la presta, t'as fait que ton jeu? Parlons de Fossil Echo et de...
Fossil Echo c'est notre premier jeu et on n'a rien fait avant ça en termes de jeux vidéo. On n'a pas fait un casse-brique quoi.
Ah ouais. Et vous n'aviez pas d'expérience avant, chacun de votre côté?
Si, mais pas en jeux vidéo spécifiquement. Moi je faisais du cinéma d'animation 3D, donc j'ai fait plein de courts-métrages. Et mon partenaire Thierry, il sortait d'une licence d'informatique et du coup il avait programmé pour pas mal de domaines. De la banque, d'applications et trucs comme ça. Donc on avait un peu les deux compétences qu'on a mis en commun, mais on n'avait pas ni l'un ni l'autre d'expérience vraiment dans le jeu vidéo quoi. Enfin, un peu comme toi en fait. Quand... Par contre, tu programmais déjà quand t'as commencé?
Ouais, j'ai un diplôme ingénieur.
Ok. Ouais, du coup on a mis nos trucs en commun et on a découvert un peu le jeu vidéo comme ça. Et on s'est lancé direct dans un projet. On n'a pas fait vraiment de test quoi. On a fait direct un...
Mais du coup, c'est quoi? C'est l'idée qui vous a porté? Vous avez lancé une idée?
C'est plutôt ça.
C'est quoi l'idée?
On s'est dit...
C'est devenu quoi?
À la base... Enfin, c'est pas l'idée qui nous a poussé à faire un jeu, c'est l'envie de faire un jeu qui a amené cette idée-là. On sortait tous les deux d'études et C'est un peu c'est un ami d'enfance en fait, Thierry. Et on avait toujours rêvé un peu de faire du jeu vidéo, voilà, on jouait depuis qu'on est tout petit ensemble. Et c'était un peu le moment ou jamais quoi. On s'est dit on sort d'études, soit on va bosser dans des boîtes, soit on tente quoi. Donc on a décidé de tenter, il s'est avéré qu'on avait les compétences qui se complétaient bien par un heureux hasard quoi, c'était pas vraiment calculé mais c'était cool, du coup on s'est dit allez on tente et on s'est dit si on tente et ben on tente pour de vrai quoi, on va pas faire des casse-briques et des trucs pendant 6 mois, surtout qu'on n'est pas financé. Autant y aller pour de bon, moi j'ai proposé une idée, on a prototypé au début sur c'était UDK à l'époque. Donc en 3D, et on s'est rendu compte que pour une équipe de deux, c'était une charge de boulot un petit peu trop violente. Et du coup, j'ai repris l'idée que j'ai remodelé un peu, et on en a fait un platformer 2D qui est devenu Fossil Echo du coup par la suite.
En 6 mois seulement ?
Non.
Ah, parce qu'à un moment donné, t'as dit pendant 6 mois.
Pendant 6 mois, on était en 3D au début.
D'accord.
On bidouillait un peu, ça m'a laissé le temps d'écrire l'histoire et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de la charge de boulot artistique principalement, il n'y a que moi qui m'occupe de ça. Du coup, faire un jeu en full 3D, c'était un peu complexe. Et du coup, on a switché en 2D.
Donc tous les assets que tu fais, c'est de la 2D hein.
Non, c'est de la 3D.
C'est la 3D avec une caméra bloquée.
C'est de la 3D en précalculé.
D'accord.
Alors ouais, j'ai quand même fait de la 3D, mais tu peux prendre beaucoup de liberté en précalculé que tu peux pas prendre quand tu fais vraiment de la 3D temps réel quoi. Je peux faire des assets avec des millions de polygones, je peux faire des dépliages bien optimisés et tout ça, donc j'ai pu travailler un peu salement on va dire, et gagner du temps là-dessus. Mais au final le jeu tourne en 2D, enfin c'est des backgrounds qui sont rendus en 2D quoi.
D'accord.
Mais les assets pendant le développement c'est de la 3D. Et du coup voilà, on a fait ça, ça nous a mis 2 ans et demi à peu près. Et c'est honnêtement très proche de ce que j'avais en tête au début.
Justement ce que tu avais en tête au début, tu disais j'en ai un tel type de jeu.
Ouais.
C'était quoi tes références, vers quoi tu voulais aller en fait?
Je pense mon top 1, enfin ma plus grosse référence c'est Oddworld, Odyssey Day.
Bien sûr, ouais.
C'est, je pense, mon jeu, si on met un flingue sur la tempe et qu'on choisit un jeu, je choisis ça.
D'accord.
Et du coup, je pense qu'au niveau du gameplay, un petit peu des ambiances et tout ça, c'est la plus grosse inspiration pour Fossil Echo. Voilà, je me suis... À la fois, c'était aussi... il s'agissait aussi de se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de faire un projet en entier,
ouais.
De A à Z, et... Je sentais pas nécessairement le besoin de faire un truc hyper innovant, jamais vu, qui révolutionne le jeu vidéo quoi. Moi je me demandais est-ce que je suis capable de faire un jeu de A à Z, j'en ai jamais fait. Je vais faire ça, je sais que ça marche parce que je sais que Oddworld ça marche hyper bien. Je vais reprendre ce qui fait un peu la saveur de ces jeux-là et je vais essayer de faire comme je le sens moi, sans essayer de rajouter un twist de gameplay juste
d'accord.
Pour le, voilà. Donc c'est un platformer simple avec des mécaniques simples et il s'agissait depuis le début de faire quelque chose de très narratif et de très axé sur les ambiances, la musique, quelque chose de contemplatif, un petit peu très immersif quoi. C'était le but principal quoi.
Parce que justement j'avais regardé des vidéos de Fossil Echo et tu me parles de Oddworld, et je trouvais que justement Fossil Echo avait plutôt une approche très platformer. Par exemple, j'ai l'impression que je n'ai pas joué.
Ouais.
Et que lorsque tu contrôles ton personnage, il a l'air assez souple,
ouais.
C'est très réactif.
Alors,
tu connais qu'on est sur du Super Meat Boy, mais.
Ouais, ouais.
Parce que Oddworld est plus proche, à mon avis, du flashback ou du.
Ouais, Oddworld est plus, on va dire. Ouais, c'est plus.
C'est pas de la vraie plateforme. Ouais.
Oddworld, c'est de. Du binaire, enfin les mouvements sont en case par case et
exactement.
Tout ça, alors que nous on est sur de l'analogique entre guillemets quoi, c'est du mouvement fluide et tout ça. Parce que à la fois j'adore Oddworld, mais c'est beaucoup la nostalgie qui parle aussi, et quand j'y rejoue aujourd'hui, cette rigidité et tout ça elle me dérange quoi.
Alors c'est cette rigidité justement qu'on retrouve pas pour moi, si on prend Oddworld, pour moi le... ce qui vient vers la suite, il y a plutôt Inside, qui est sorti récemment.
Ouais.
Et où, bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de références à Oddworld. Enfin, j'ai retrouvé des choses, notamment avec des personnages que tu dois sauver.
Ouais.
Par
c'est vrai qu'il y a un peu ça.
Et qui est une référence à Oddworld,
ouais, ouais,
on voit les personnages qu'on doit... Enfin, les salariés, les ouvriers, je sais pas si t'as joué à Oddworld.
Ouais.
Voilà, t'en souviens, t'as des ouvriers comme toi de la... l'entreprise de viande, Abe, qui travaille là-dedans. Ouais. Et il y a tous les... il y a un méchant... le gouverneur, enfin pas le gouverneur, le chef de l'entreprise, qui est un tyran, et du coup, il voit s'il est Abe et esclave, enfin esclave, enfin c'est un esclave, et il est prisonnier, il va s'enfuir, il va essayer de sauver tous les autres ouvriers qui sont bah, des esclaves en fait.
Mais d'ailleurs, il y a plusieurs fins différentes.
Il y a deux fins dans le
deux premier. Fins, ouais.
Quand tu les sauves ou quand tu les sauves pas.
C'est ça.
Je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, et du coup, c'est vrai que quand j'avais regardé Fosky Déco, j'avais ce ressenti de.
Ouais.
De vivesse, enfin de.
Bah, c'est.
La responsabilité,
je crois. Ouais, je vois ce que je veux dire, mais c'est carrément volontaire, ouais, parce qu'à la fois j'adore Oddworld pour le, voilà, les ambiances et la simplicité du gameplay en fait. Mmh. Les mécaniques sont simples et claires et fonctionnent bien. Mais à la fois voilà, la rigidité des mouvements et tout ça, ça a mal vieilli. Mmh. Et je voulais quand même quelque chose qui soit fluide, qui soit joli à regarder aussi, parce qu'en Oddworld c'est vachement saccadé, c'est rapide et c'est très joli visuellement en image fixe, mais en mouvement c'est un peu agressif quoi. Mmh. Et du coup, ouais, c'était une volonté voilà, de fluidifier le gameplay tout en gardant la simplicité.
Pour tout le jeu, moi j'ai ressenti que c'est un peu ça. Vous êtes parti d'un jeu qui aurait pu mal vieillir et vous l'avez mis pour Street of Rage. Vous l'avez un peu modernisé, puisqu'on va parler de ton jeu aussi.
Mais ouais. En fait, non, nous sur Street of Rage qui pour moi n'a pas forcément mal vieilli. Je sais pas si vous avez tous. Non, vous connaissez le jeu, non?
Oui, je connais.
Au Street of Rage, tu connais pas du tout, tu vois.
Non, ça date de quand?
91, je crois. C'est sur Mega Drive, tu connais peut-être Double Dragon.
Mm-hmm.
Voilà, du coup, en fait, Double Dragon qui est sur NES, quand la Mega Drive 16 bits est arrivée, il y a Street of Rage qui était le nouveau Beat'em All.
Okay.
Et en fait, c'est un style de jeu, le Beat'em All, qui aujourd'hui, qui jusqu'à l'arrivée des nouveaux Beat'em All, était assez abandonné selon moi, à tel point que lorsque je voulais jouer à un Beat'em All, je branchais la Mega Drive avec mes potes et on revenait toujours sur ce Street of Rage qu'on essayait à chaque fois. On avait nos vies et il n'y avait pas de checkpoint à l'époque, on était toujours de le terminer. Voilà. Et depuis, il y a eu quand même des jeux qui sont bons, hein. Il y a eu Castle Crasher, Scott Pilgrim et bien d'autres. Mais pour moi, il n'y avait pas l'état d'esprit des mobs qu'on avait à l'époque de Street of Rage, où vraiment c'était de la baston de rue, les punks, les coups de bouteille, etc. Ouais. Il y avait un côté un peu subversif. Moi, quand j'y jouais, quand j'étais chez mes parents, donc j'étais en primaire. J'avais un peu peur que mes parents me voient en train de jouer avec ça. C'est-à-dire que tu affrontes des prostituées avec des fouets. Et j'avais un peu honte. J'avais l'impression de faire le mur pour jouer à ça. Et du coup, ça m'avait beaucoup marqué. Et quand j'ai eu l'occasion de devenir indé, parce qu'avant je bossais chez Ubi sur Just Dance, qui n'a strictement rien à voir, en sortant du contexte de Just Dance, j'avais envie de faire mon premier jeu, et notamment de reprendre un ancien concept de jeu tel que Beat'em All, donc avec Street of Rage, et essayer de le remettre au goût du jour. Avec justement, notamment en termes de responsabilité, enfin de... je sais plus comment... je l'ai dit plein de fois, en plus c'est un mot que j'ai depuis tout le temps. Ça répond quand c'est ultra actif, réactif, voilà, c'est ultra réactif, le fait que tu appuies sur un bouton directement mais ça tape quoi. Voilà, qu'une sensation au niveau du gameplay, vraiment quand on se bat quoi. Et dans un univers qui soit assez glauque, assez. Puisque pour moi la baston ça reste quelque chose quand même qui est assez sombre. C'est pas quelque chose de joyeux, c'est pas quelque chose d'édulcoré comme on peut l'avoir dans certains. Dans un Castle Crasher ou un Scott Pilgrim, je sais pas, vous avez joué dans ces jeux-là ou pas?
Ouais, non. Ouais, Castle Crasher, j'ai pas
mal joué. Double Dragon était un peu plus dark, dans le sens où vraiment tu te battais contre. Tu sentais que c'était pas des bonnes fréquentations quoi.
Ouais.
Donc un Castle Crasher, c'est plus cartoon. Donc,
ouais,
du
c'est
coup,
gentil. Ouais.
D'accord. C'est gentil. Et du coup, il n'y a pas le côté vraiment baston, je trouve, qu'on avait à l'époque. Et l'idée, c'était de le remettre au goût du jour.
Donc c'est plus l'ambiance que tu as voulu ramener plus que le gameplay. Le gameplay a quand même continué à évoluer dans le mode démol quoi.
Alors il y a eu deux choses. Il y a eu le game feel, c'est vraiment le côté quand tu la mets en main, quand tu tapes, c'est réfléchir à les manières dont tu as tapé. Par exemple, nous on a fait, il y avait d'autres jeux en fin qu'il avait déjà fait, mais le fait de taper au sol. On fait tomber quelqu'un, on le tapait au sol. Donc il y avait le travail de l'animation déjà pour qu'on le ressente, mais aussi le travail au niveau du ressenti dans la manette. Alors ça peut être la vibration, mais c'est le fait aussi que dès que tu appuies, tu vas pas faire le directeur, tu vas pas avoir l'animation du coup, c'est directement bam. Et après c'est ici qu'on va faire un... Et Alex, donc, qui est le graphiste, il travaille sur le blur aussi, qui a mis du blur sur du pixel art qui était assez nouveau et qui fonctionne, qui donne bien une bonne impression de mouvement. Donc voilà, on est très là-dessus, puis après t'as l'univers et qui rejoint le thème en effet des cultures. C'est pourquoi on est là aujourd'hui.
Oui, parce que je vous ai rassemblés parce que vous avez tous une culture propre. J'avais envie de mêler un peu de la culture américaine, occidentale.
D'accord.
Et du coup, toi, bah, c'est les Antilles. Phil, c'est parce que c'est la Nouvelle-Calédonie. Je me rappelle, dans une interview, tu m'avais dit que tu avais été quand même influencé, du moins pour le monde du studio, en tout cas, qui
je sais plus ce que
ça voulait dire. Et aussi dans le jeu, en fait, que... Et toi, c'est la Russie, c'est pour ça que je tiens CD entre les mains.
Ouais.
Je crois que ça veut dire le sang cool ou les
rêves, je crois. Oui, enfin, nous, Texture Craft, en fait.
Magnifique, hein. C'est dans le thème.
On reste dans la thématique du Bizarre.
Ça, c'est beaucoup plus vieux, c'était le groupe que j'avais au lycée. Et c'était donc du death metal, donc faut aimer le...
C'est ton groupe?
Ouais, enfin c'était mon... je suis plus dedans.
Parce que du coup, faut raconter l'histoire que t'as fait un voyage en Russie, que ça t'a marqué, du coup...
Quand j'étais en...
Exactement. C'est quand même la Russie, quoi.
Voilà, mais c'était en seconde, tout est parti... Enfin, l'histoire du russe, non, c'est vraiment parti plutôt du fait que dans le collège où j'étais, on proposait le russe en deuxième langue. Et bah, avec un pote, on s'est inscrit en russe. On s'est dit, bah c'est marrant, on va faire du russe. Et on, très vite, bah, ça avait un côté un peu exotique, c'est-à-dire que quand on voyait nos copains de l'époque, bah, on avait nos surnoms, moi c'était Sergueï. Le fait de faire du russe, déjà, ça donnait un petit truc. Et est arrivé le lycée, et là, moi je suis parti en voyage, donc j'ai vu la Russie, mais bon, je peux pas en parler, enfin, j'ai vu en tant qu'correspondante, etc. Ouais. Et est arrivé, 16-17 ans, l'envie de faire de la musique, on arrête un peu les jeux vidéo, puis on se lance dans la musique. J'ai de la guitare, on a lancé ce projet donc avec le pote avec qui on faisait du russe et d'autres personnes qui s'appelle Tetchotkov. Donc Tetchotkov qui veut dire, nous on était fans de Slayer, je sais pas si vous connaissez Slayer, et il y a un morceau qui s'appelle Raining Blood, donc le sang coule. On s'est dit, bon, on va mettre Tetchotkov qui veut dire le sang coule. Sauf qu'à un moment, dans un concert en russe, nous a expliqué que ça veut dire les règles.
Ah ouais.
Avoir ses règles. Donc nous on était un peu, on pensait que ça faisait très viril, etc. Et en fait, mais bon, du coup, c'était marrant.
Mais ça va, t'as pas eu le temps de te faire un tatouage entre temps.
Donc voilà, et t'es arrivé. Donc du coup, il y avait le côté russe, on rigolait pas mal autour de ça. Mm. On a fait un MCD que voici en 2009. Et à partir de là, bah, le côté russe, on rigolait pas mal autour, on avait nos noms, on parlait aussi, on est notre langage à nous dans notre groupe. Et on passait beaucoup de temps à regarder aussi les vidéos de ce qui se passe en Russie, pas les vidéos extravagantes de la Russie, notamment de baston, de boire, etc. Plutôt pour le côté déconné, quoi. Et du coup, est arrivé quand on a pensé à Another Russian Beat. Alors, cette fois-ci, plus avec ces mecs-là, avec des personnes différentes, j'ai proposé de la Russie, de travailler sur une URSS alternative, un truc vraiment badass. Enfin, le côté, c'est badass, violent, alcool, drogue, etc. Un truc vraiment très sur le principe du déjanté, quoi. C'est pas à prendre au sérieux.
Faut commenter un peu.
Ah, bah ouais.
Et je vais vous poser une question, comme ça, vous allez aller. Débattre là-dessus, pour vous, c'est quoi être indé? Parce que bon, vous avez tous du coup une culture différente, mais finalement, vous avez quand même tous indé, quoi. Donc pendant que je vais aller, je recommande pareil.
Pareil pour moi.
Pareil.
Ouais, s'il te plaît.
D'accord. Et ben voilà, à vous de débattre là-dessus, c'est quoi être indé?
Alors être indé, moi, c'est si je fais le. En ayant été salarié, dans le jeu vidéo, en étant salarié et employé puis indé, il y a deux choses. La première, je dirais que c'est le côté liberté, ça c'est évident. Le fait, quand je dis liberté, c'est liberté du projet qu'on va amener, liberté des personnes avec qui on va travailler, liberté du temps, comment on s'organise. Et après, je dirais aussi, il y avait liberté, puis le côté aventure. Ouais. Là où je l'ai vraiment ressenti, et d'autant plus. Alors aventure, il y a le côté, on est toujours chez soi, parce qu'on travaille chacun chez soi, on est face à notre... ordinateur.
Du coup, vous bossez chacun chez vous.
Ouais, on n'a pas de. On pas de...
Pendant tout le projet, vous avez fait comme ça?
Bah, on se voyait de temps en temps, mais sinon, on est sur Slack. Et...
Okay.
Mais voilà, je dirais, il y a ce côté-là, on est très renfermé, mais après, il y a avec l'arrivée de Devolver, donc notre éditeur, on a pu voyager et rencontrer pas mal de monde. Et là, ça prenait le sens plutôt d'aventure. D'aventure à. bah, découvrir plein de choses, découvrir des, bah, des salons, les pays, enfin les pays où on n'a pas fait 300 000 non plus, hein, mais... Et puis bah, l'aventure de pas trop savoir de quoi sera fait le lendemain non plus, quoi.
C'est ça, j'allais dire. Être indé, c'est du stress.
Super. Ouais, ça, ouais. Aventure dans les 208, hein,
ouais, il y a un peu de ça. Non, mais c'est. Bah, moi, j'ai jamais été, contrairement à toi, j'ai jamais bossé vraiment dans une grosse boîte en tant que salarié, donc je. Je saurais pas trop faire la comparaison, mais. C'est. Je pense, ouais, bah, simplement, voilà, avoir la liberté de. De mener un projet si t'es propre à 100%, quoi. Mmh. Tu dépends des choix de personne. Et ça m'intéresserait aussi, je pense, d'essayer.
D'essayer la grosse boîte ?
Ouais. Je pense pas que l'un soit mieux nécessairement, mais.
C'est vrai que c'est enrichissant quand même.
Ouais, ça doit être
passé par la grosse boîte pour
je pense. Mais ouais, c'est quand même, voilà, avoir cette liberté-là. Je vois, ouais, j'ai des potes qui après les études ont fait le choix d'aller travailler dans les grosses boîtes et sont contents, c'est des super expériences et tout ça, mais ce qui revient souvent, c'est que t'as quand même vachement de chance de pouvoir faire ce que tu veux, quoi. En tout cas, même si c'est galère et que parfois c'est stressant et c'est moins stable que ce soit financièrement ou sur tous les plans, en fait, c'est quand même un petit peu plus... Voilà, bah, moins stable, moins sécurisant, quoi. Mmh. C'est quand même, je sais pas, je me dis, tant qu'on est un petit peu jeune, quand on essaie d'en profiter un peu.
Avant d'être submergé par la dépression.
C'est ça. Quand tout sera tombé à l'eau, ben, je serai dans une boîte et je m'y résoudrai, mais pour l'instant, ça va. Je peux subir le stress. Et les bons points prennent le dessus, quoi.
Parce qu'on parlait tout à l'heure là, de la dépression post-sortie de jeu, quoi. J'avais lu un article là-dessus chez mon fils sur lequel je... Je sais pas si c'est pas d'ailleurs super... C'est quoi, super mid-ball, je sais plus.
Peut-être, ouais.
Mais il me semble que le mec, il était en mode dépression alors que son jeu, il a cartonné. J'avais lu une interview géniale, je sais plus, c'était deux créateurs sur un même jeu. Qui avaient complètement deux vies différentes et ils étaient devenus millionnaires grâce au jeu. Et il y en a un, c'était lui qui reste dans son coin, qui est tout seul à l'école, qui n'a pas trop d'amis, et l'autre qui est entouré d'amis et qui a toujours été soutenu. Et t'en as un qui est parti en mode dépression. J'ai peur que les gens. Je sais plus, peut-être. Hein. Genre, j'ai peur que les gens soient mes amis pour me voler mon argent, j'ai plus confiance en personne. C'est horrible, et l'autre qui était là, mais non, c'est le kiff. Parce qu'en fait, dès le début de leur vie, ils étaient conduits à avoir ces deux penchants, quoi. Un en mode parano et l'autre en mode voilà, c'est trop ça, le kiff, quoi. Ouais.
Après, sur le truc indé, je vous rejoins. C'est une espèce de liberté de porter un peu plus les projets qu'on veut. Mais je trouve que la définition, enfin, c'est quand même super flou. On en parlait avec pas mal de gens du milieu. Neko, est-ce que c'est une boîte indé ou pas? Quand tu leur demandes, ils disent oui, on est des indés.
Et même Ubisoft, finalement, Guillemot, bon, après, si on parle de Bolloré, évidemment, ils sortirent ça, à la base, ils étaient indépendants, donc ils ont fait ce qu'ils veulent.
À la base, voilà. La limite est quand même super floue. Un dé, c'est pas le mec dans son garage qui est tout seul et qui est sur Slack avec ses potes, forcément, en fait. Et il y a peut-être pas. Bon, si, soyons honnêtes, il y a plus de risques chez les indés. Ouais. Mais chez des boîtes déjà bien établies, tu en vois qui disparaissent aussi parce qu'ils ont fait deux fois le mauvais choix.
C'est vrai.
Tu vois, à partir de combien de salariés on dit que t'es plus indé, par exemple? Si t'as une boîte avec 100 salariés, est-ce que t'es encore un indé? Des boîtes avec 50 salariés qui ont fait
indé, c'est peut-être aussi
deux fois le mauvais choix de jeu.
Ouais.
Deux fois. Et qui ont mis la clé sous la porte, on en connaît. Donc moi, j'ai bossé à Alexis en 2000, 99, je sais plus. Juste au début, au moment où ils ont commencé à cartonner, c'était tout petit, on était 20 ou 30, je crois. 20, tout petit. Il y avait déjà 20 personnes dans la boîte, un truc. Après, ils sont devenus assez gros à partir de 2004, 2005, je crois.
Et qui ouais.
Quand ils ont tout ramassé partout, les prix, ouais. Machin. Mmh. Et puis ils ont fait deux.
Donc toi, c'était l'aventure de l'oncle Ernest.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
De quoi? C'était quoi?
L'aventure de l'oncle Ernest, c'est avec ça qu'ils ont gagné des prix au States. Ouais. Et après. Quand je suis revenu dans le milieu du jeu vidéo, donc c'était en 2013-2014, hop, j'ai pris des nouvelles. J'ai vu qu'ils étaient morts, et j'ai vu la story, ils ont fait deux mauvais choix en fait. Il y a eu un jeu abstrait.
Half-Made.
Je connais pas le titre, mais voilà, et boum, terminé.
Je t'ai tué.
Est-ce que cette boîte, c'était un indé ou pas? Ouais, je pense qu'ils sont toujours restés indés dans l'esprit. Mais c'est pas juste une histoire de taille, quoi.
Non,
ils sont grossis, il y avait Marseille et Paris, ils avaient grossi vraiment.
Ouais, ouais.
C'était Brooklyn Story.
C'est tant que tu gardes le contrôle de tes propriétés intellectuelles déjà. Tu peux considérer que t'es indé.
Mais du coup, il est plus indé, puisqu'il a dit Volmer. Enfin, dans ce cas-là, c'est ça qui est assez frustrant.
Vous avez quand même les droits sur votre propriété intellectuelle.
Oui, on a les droits sur l'IP.
Voilà.
Okay. Mais après, même au début, nous, c'était Pôle emploi qui nous finançait. Enfin, ouais. C'est un chemin, donc est-ce qu'on est indé ou pas? C'est vrai que c'est assez difficile. Enfin, moi, le seul truc que vraiment. C'est le côté. Je vois mon quotidien, en fait. C'est surtout ça, en fait, par rapport à salarié. Où j'ai plus l'impression, en fait, de. Quand je marche avec. Et mon jeu en même temps autour de moi. Plus que quand avant, je travaillais, j'étais plus. Je changeais, je retirais mon habit. Et tandis que là, c'est à n'importe quel moment, quand on parle, je véhicule ce que je fais, en fait.
Mais c'est pas forcément parce que t'as changé d'industrie entre grosse boîte et indé, c'est juste parce que t'es le porteur de projet.
Ouais.
Parce que si t'es salarié dans une boîte indé qui a 10 personnes, mais que t'es juste salarié, t'es pas porteur du projet. Je suis pas sûr que quand tu te balades dans la rue, t'as tout ton truc dans ta tête. Quoi.
Et à la fois le mec.
C'est ça.
Ouais. Et à la fois le mec qui est à la tête d'une équipe de 300 personnes, je pense qu'il le porte aussi au cœur.
Ouais, j'allais dire le mec de Quantum Dream, là je suis sûr qu'il porte à fond, porte son truc.
Mais c'est la porteur de projet, c'est vrai.
Je pense qu'il n'y a pas vraiment. Non, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est une question sans réponse, un peu. C'est un peu comme. On pose souvent la question, est-ce que ça c'est un jeu vidéo quand on parle tous les jeux un petit peu abstraits et tout ça. Enfin, c'est une question. Il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Mais être indé, c'est là.
Oui, il y a ça. Mais il y a une fierté en même temps. Enfin, une fierté, il y a quelque chose, on sait. C'est vrai que c'est différent. Puis par contre, j'ai complètement abandonné mon CV. Enfin, je pense plus à tout, la même logique en fait.
Ouais.
Y a plus ce truc là où des choses tu laisses en friche. En gros, le CV, t'as plus de site perso, c'est ton. Et puis après, le seul truc, le vrai, c'est plus la différence pour moi, c'est qu'il n'y a pas de chômage derrière. C'est que si ça s'arrête, c'est un problème. Faut répondre. Parce que sinon, quand c'est arrivé, tu peux te dire, à la limite, il y a le chômage derrière qui peut. Ouais. Jusqu'à nos jours, en tout cas. C'était pas dans l'idée de je dois partir ou pas, c'est il faut que je réussisse à. Et par contre, c'est les seuls moments aussi, 5h du mat, tu te réveilles sans raison, obsédé par l'idée de réfléchir à une nouvelle idée, parce que ceci, parce que cela.
C'est ça.
Tu sais le faire avec les noms.
Et c'est assez.
Je vais aller tout à
l'heure. Ça turbine beaucoup plus.
Dans nos positions, il y a beaucoup plus d'implications, on est tout simplement à 110% dans nos projets. C'est en effet la grande différence.
Il y a aussi le.
C'est ça.
T'es pas super haut forcément dans l'organigramme de la boîte.
Il y a aussi le fait qu'on touche à tout, y compris la gestion d'entreprise, un peu que tu fais pas quand t'es juste salarié, y compris le marketing. T'es plus juste développeur, quoi. T'es aussi, comme tu dis, t'incarnes ton truc sur tous les fronts, quoi.
C'est vrai que je le dis, souvent quand on discute avec les gars de ma team, on dit j'ai vu le mec de tel projet, j'ai vu les gars de tel team, de tel truc. Et c'est. Pour moi, c'est jouer à leur jeu en fait. Par exemple, là, on se voit aujourd'hui, j'ai vu les vidéos des jeux, et du coup, je me fais un avis par rapport à. C'est le jeu, la personne, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Et ça incarne le jeu. Enfin, c'est ça. Je vois moins sur des noms indépendants.
Est-ce que tu te verrais faire grossir ta boîte
Non.
Tu vas rester à cette échelle-là?
Sauf si vraiment il y a un besoin pour le projet, un éventuel futur projet.
Ouais.
Mais sinon, non. Ah non, vraiment pas.
Ok.
Non, ça me dit rien du tout de
mais
faire
pourquoi
grossir.
Pourquoi d'ailleurs?
Parce que.
Ça pourrait te permettre de faire finalement peut-être un plus gros. Pas un plus gros projet, mais voire plus.
J'ai l'impression, plus ça va grossir, j'ai l'impression que plus ça.
Est-ce que c'est le côté galère logistique qui fait que t'as pas envie de ça ou c'est vraiment le développement en petit comité qui te
plaît? J'aime bien la proximité qu'on a avec le jeu, je sais pas comment expliquer, mais je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que je prendrai des distances avec le jeu et que plus il y aura de monde, moins ce sera, il y aura une proximité. Là ce que j'aime bien justement c'est le fait qu'on soit juste petite équipe.
Ouais.
Que j'ai travaillé, j'ai pas une expérience non plus, je parlais de Lexis dans les années, ça a commencé en 2010, mon expérience, mais pouvoir travailler sur différentes configurations, je me sens plus à l'aise sur vraiment des petites équipes. Après, bon, admettons, ça peut-être 6-7 grand max, mais je me sentirais pas. Ou sinon, ce serait un autre, mais j'aurais pas le même rapport
au jeu. C'est ça la limite, c'est à peu près 6-7.
Sur une équipe
10 maximum.
Ouais, 10. Ah, envie de... bah après, sinon, ouais, faut, alors, sinon mais je pense qu'il faut que je fasse confiance aussi à ce moment-là. Mais du coup, c'est aussi peut-être à moi de grandir là-dessus. Mmh. Et après, ça veut dire bah, avoir des associés de producteurs pour ceci, ouais. Pour cela, pour gérer le truc. Après, c'est plus de pression. J'ai l'impression aussi que c'est plus de pression.
Ouais, donc c'est aussi ça. Et si on me disait clé en main, voilà une équipe de tant de personnes que tu veux pour faire ce que tu veux.
Bah, en fait, il faudrait que je sois sûr. Sûr. Enfin, j'ai besoin toujours d'être sûr en fait. Ouais. Et ouais, j'aurais trop peur de pas me contrôler. Enfin, ouais. Non pas que j'ai un besoin viscéral de contrôler les choses, mais j'aurais peur de.
Ouais.
C'est toujours. Ouais, je suis quelqu'un qui a assez peur en fait sur ce genre de choses.
C'est à quelqu'un en particulier les frocs là?
C'est à qui veut.
La communauté.
Ah ouais?
Les indépendants.
C'est ça. C'est les frocs indépendants quoi.
C'est pas pour le caméraman.
Et vous, du coup, cette idée du groupe, toi, t'as déjà...
Moi, je suis très chaud sur ça, c'est-à-dire... ça répond aussi un petit peu à la question que tu m'as posée tout à l'heure. J'ai commencé à y répondre quand tu m'as dit « Mais pourquoi on a plusieurs jeux en parallèle, en fait,
ouais.
Plutôt que un ?» C'est vrai que c'est une question très rapidement que je me suis posée en tant qu'indé, pour le coup. J'ai vu que les deux stratégies, c'était... Et la plus courante, c'était... on fait un jeu jusqu'à la mort.
Ouais.
Et on peut passer un an, deux ans, trois ans, mais que sur un seul projet. Et une fois qu'on a terminé, on passe à un autre projet. Et l'autre approche, c'était de développer un catalogue, en fait. Et c'est cette approche-là qui m'a beaucoup plus plu. Parce que je me vois pas comme le créateur indé qu'on associe à un jeu, en fait. À un projet. Enfin, j'ai pas de nom de jeu, enfin, je sais pas, Rovio, par exemple, les mecs qui sont fait avec le Bird. Bon. Si, ça me plairait bien, à la rigueur, ok.
Ils sont nombreux, hein, je pense.
Ça me plairait bien. Mais dès le début, je sais pas, ma vision du truc, c'était de créer un catalogue et d'être, de prendre une certaine place en fait sur le marché avec une certaine offre en fait, et de pas être dans un couloir et de faire un projet. Parce que c'est vrai que par rapport aux opportunités qui se présentent, tu bosses sur un projet, il y a un truc qui se passe. Et tu dis, mais je peux pas laisser passer cette opportunité, il faut que je bosse dessus aussi. Donc là, tu montes une autre équipe délocalisée.
Mmh.
Et surtout aussi.
Mais t'as pas peur de plus être vraiment dans la démarche indé, parce que du coup, t'es au service du client si tu réponds à.
Ah non, j'oublie le. Là, je parle plus du tout de prestataire de client.
D'accord,
je parle
que vraiment de projet propre.
Ah non, sinon, ça, c'est le. Oui, ça, c'est, c'est la fin des haricots, ça. Mais juste au niveau des projets propres, en fait, juste pour une histoire de calendrier. Par exemple, si je prends Soccer Dash, une grosse partie du moteur du jeu il est fait depuis longtemps. Quoi. Maintenant, ce qui prend du temps, c'est juste de le replacer en Unity. Mais bon, déjà là, c'est sharp, déjà, voilà, ça se ressemble. Ça va aller assez vite. Mais là, par exemple, ça fait 6 mois, on a 2 ou 3 illustrateurs qui travaillent non-stop pour créer des nouveaux décors. Pendant ce temps-là, sachant que le code est quasiment fini, je vais pas attendre les bras croisés, en fait. Donc là, à ce moment-là, tu fais une étude de marché, tu fais le tri dans toutes tes idées que tu as empilées depuis des mois, parce que c'est ça, quand tu sois, t'es dans ta douche, t'es dans la rue, tu marches, tu as toujours des nouvelles idées qui arrivent.
Ouais.
Tu les tries par priorité, tu dis ok, bah, pendant que eux ils bossent là-dessus, ils sont en train de créer du contenu, ils sont en train de créer des décors, des dizaines de décors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là en fait? Là, tu pars sur d'autres projets et tu grossis ton catalogue. J'ai vraiment une vision comme ça du catalogue et donc de grossir les équipes aussi, quoi. C'est ce qu'on fait en ce moment, par exemple sur Oupassave. Oupassave, je l'ai fait. Enfin, mis à part l'implication d'Hotman qui a dessiné le guide du jeu et un illustrateur qu'on a engagé qui s'appelle Andrew qui a dessiné les personnages du jeu, tout le reste je l'ai fait en fait. Mmh. Donc, le code et surtout le contenu en fait, les questions, le contenu éditorial. Et évidemment, je vais pas faire ça pendant des années parce que j'ai d'autres trucs à faire. Je peux pas passer mon temps à écrire des questions. Donc là, bah, par exemple, j'ai posé des annonces pour recruter des rédacteurs dans plusieurs domaines séparés. Je suis en relation aussi avec des groupes de presse qui, eux, connaissent, qui travaillent avec des écoles, qui ont un gros réservoir de rédacteurs aussi. Qui vont...
Des écoles entières, du coup, tu restes vraiment dans le domaine. Je vois pas le lien entre chercher des rédacteurs pour poser des questions sur
ouais.
ou pas ça
mm-hmm.
et les écoles en fait. C'est ça, j'essaie de faire le lien entre travailler avec les écoles et
les
écoles de jeux vidéo.
Bon, je vais pas m'arrêter sur le mot école trop longtemps parce que c'est vraiment un cas très particulier, mais en gros, je suis vraiment en relation avec des gens super influents dans la presse qui, eux, m'ont dit qu'ils font des actions auprès de pas mal d'écoles en fait. là en l'occurrence dans les dom-toms, et que là il y avait un gros réservoir de personnes motivées qui pouvaient être motivées pour rédiger, pour le jeu, etc. Donc l'idée c'est de... Moi mon boulot c'est de déléguer au maximum parce que sinon, justement si je délègue pas, je suis pris sur un projet à la fois en fait. C'est pas du tout ma façon de fonctionner, je suis obligé de... Voilà,
mais c'est marrant parce que vous êtes un peu opposé. Toi tu veux pas déléguer parce que tu veux garder le contrôle et être proche de ton jeu.
Moi c'est plus d'apprendre.
Toi tu veux déléguer pour pouvoir faire plusieurs projets et... Pourtant vous avez tous les deux des jeux indés avec des petites équipes et...
En fait l'idée c'est qu'à un moment donné j'ai redécouvert le concept, la différence de concept en termes de porteur de projet. Parce que c'est vraiment ça, c'est super intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Quand t'as posé la question sur les indés, pour moi t'as pas répondu sur le mot indé. T'as eu uniquement un discours entre quelle est la différence entre être salarié et avoir une start-up en fait. Et c'est ça en fait, il y a deux, dans les dirigeants de start-up, pour moi il y a deux grandes familles. Il y a les chefs d'orchestre et les hommes orchestres en fait. Et être un homme orchestre, pour moi c'est usant en fait. C'est usant, tu fais tout, de A à Z, et t'es persuadé que tu... Mais t'es persuadé, avec raison quelque part, mais que tu fais tout mieux que les autres. Et que tu as beaucoup de mal à déléguer en fait. Ce bout de code, tu vas le déléguer, ouais, mais je suis pas trop confiance, moi je sais que je le connais mieux. Ce marketing là, community manager, ouais, mais bon, il fait des fautes d'orthographe, vas-y, je vais le faire moi-même, ça va être mieux fait, etc. etc. C'est ça la notion d'homme orchestre. Et la notion de chef d'orchestre, en fait, c'est le gars qui sort vraiment de l'équation. Et son vrai taf, c'est de trouver des talents en fait, c'est de trouver des gens à qui. Mais ça, c'est vraiment un taf, un vrai taf, hein. C'est vraiment compliqué. Et j'ai beaucoup de potes, dont un en particulier, j'ai une pensée pour lui, qui a une boîte florissante, qui est super connue dans le milieu IT en France, mais il a des galères non-stop au niveau de ses embauches, et pourtant il fait appel à des cabinets spécialisés, des cabinets IT spécialisés, il fait passer plusieurs entretiens, il a une bonne connaissance de l'être humain, à chaque fois il a des mauvaises surprises en fait. Et c'est vraiment pour moi la voie à suivre en fait, c'est d'aller dans ce sens-là, parce que ça te dégage du temps pour pouvoir faire autre chose, et ça te permet de grossir sans trop souffrir en fait.
Voilà,
c'est vrai que si tu veux grossir en gardant la main sur tout, bah, c'est pas possible. Il y a un palier en fait.
Et toi, tu veux rester deux parce que du coup, tu t'es installé à Bordeaux dans la pépinière avec ton ami, je suppose.
Ouais, bah, on est trois maintenant déjà.
D'accord.
On a déjà un partenaire en plus. Et non, moi, idéalement, j'aimerais bien grossir. J'ai pas de chiffres en tête précisément, mais j'ai l'impression que j'aspire à faire des trucs qui nécessitent des équipes un peu plus conséquentes que ce qu'on avait là. Et je pense que je pourrais faire mieux en fait. Je me sens un peu. Je me sentais un petit peu.
Les yeux.
Ouais. On a fait, et je pense qu'on a bien fait en fonction des contraintes qu'on avait, c'est-à-dire être deux personnes, mais voilà, je sens que je me suis pas permis d'aller au bout de ce que je voulais faire parce que voilà, on a des contraintes de logistique, j'aimerais bien être. J'aimerais bien être plus nombreux sur un nouveau projet potentiel. On aimerait bien atteindre au moins 5 personnes. Et après on verra, mais j'ai pas encore forcément de limite.
Ouais, tu restes ouvert aux opportunités.
Ouais, après peut-être qu'à un moment donné je vais me rendre compte que trop de personnes ça devient compliqué, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'avoir une plus grosse équipe ça va me permettre de me rapprocher un petit peu plus de mes aspirations quoi.
Voilà. Mais dès qu'on peut au maximum déléguer des tâches qui sont faciles à déléguer.
C'est ça.
Moi, j'ai commencé par un truc le plus simple, hein, les illustrations. On est deux en fait. Moi, au niveau de la production, je suis codeur. Othman, il est illustrateur. Et j'avais pas du tout d'idée au début du temps que ça prend de dessiner, de faire. En plus, tous les gens sont différents. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte les premiers mois que ça lui prenait un max de temps et qu'on se retrouvait à deux dans une problématique qui faisait que on pouvait pas marcher main dans la main. Au début, on était main dans la main et puis ensuite j'étais 20 mètres devant, puis après j'étais 100 mètres, et après j'étais 1 km devant. Et donc du coup, c'est ça qui a commencé à donner l'idée de créer un catalogue, parce qu'en fait, à un moment donné, j'attendais et j'avais rien à faire, quoi. Et j'attendais, je me disais, je peux attendre longtemps parce que à un moment donné, j'avais pris tellement d'avance. On a des boulots qui sont peut-être, qui n'ont pas la même timeline, quoi, entre le code et l'illustration. qu'il fallait que je m'occupe en fait à un moment donné en attendant. Et c'est là vraiment où l'idée de la délégation est venue, surtout avec l'illustration en fait. J'ai commencé à chercher des illustrateurs. Parce que ça c'est facile quoi.
Ouais.
Tu mets un petit cahier des charges simple, tu repères le style du gars et t'as pas de mauvaise surprise. Enfin, sauf mauvaise surprise humaine, mais sinon sur le boulot t'as pas de mauvaise surprise. Donc voilà, ça c'est facile à déléguer. J'avais commencé au début avec le marketing, la communication. Là je me suis rendu compte que ça allait être compliqué en fait, très compliqué de déléguer. Parce que quand tu récupères des gens en marketing, en community management, etc. Qui est quand même un travail de l'écrit quoi. Et ce sont des gens qui sont incapables d'écrire une ligne sans faire au moins deux fautes d'orthographe. Là je me suis dit là, c'est trop compliqué, je verrai ça plus tard. Déléguer l'illustration c'est plus simple, déléguer la musique c'est simple. Le plus dur en effet c'est déléguer tout de suite les trucs de responsabilité. Le jour où la question va se poser d'engager un producteur par exemple, qui va vraiment gérer lui-même une équipe chez nous, là ça va être super compliqué. Mais déléguer des petites tâches, ça peut se faire assez rapidement au début et pff, qu'est-ce que ça soulage.
Bon.
Ouais, mais après moi je pense qu'on a fait qu'un seul jeu. Donc mes heures chabilles, ils ont été 4. On a eu des sous-designers en plus, des localisations, etc. Mais en effet, il y a des choses, comme tu disais, on était homme orchestre, il y a des choses, on a fait beaucoup de choses. Et j'ai pas l'impression. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'en suis pas là. En tout cas, je pense pas qu'on avait besoin d'être plus. Enfin, on s'en est tiré comme ça. Je pense que si on.
T'as l'impression d'avoir fait des trucs qui t'ont pris du temps inutilement et t'aurais pu faire mieux sur les domaines que tu maîtrises vraiment, quoi.
Non.
Ok.
Non, je pense. Mais il y a plein de défauts.
C'est comme ça que je vois, quoi.
Après, peut-être il y aurait pu avoir des regards neufs, des nouvelles idées, une façon différente de faire. Quelqu'un qui avait plus d'expérience, par exemple, qui serait venu, qui nous aurait dit bon, bah. Oui, on a des personnes qui sont passées, hein. On a fait énormément tester, on a. Écouter pas mal de conseils, mais justement je trouve qu'il a une âme que je ne suis pas sûr qu'on aurait pu avoir si on s'était trop éclaté en termes de personnes. Mais peut-être aussi parce que c'est le premier projet et du coup il fallait qu'on soit très en mode 300 groupés quoi. Mais par contre sur d'autres projets où je pense qu'on aura peut-être plus, on sera plus à l'aise, peut-être qu'un projet qui nécessiterait plus de personnes, là on commence à réfléchir à des choses. Peut-être que ouais, prendre un petit peu plus, mais l'idée de grossir pour grossir, c'est ce que je veux dire, et d'étendre, d'avoir une boîte à charge d'emploi, c'est pas du tout ce vers quoi. J'aime bien le côté, qu'on ait des jeux qui nous. Enfin, qui soient nos. Enfin. Nos créations.
T'as l'impression que grossir l'équipe, ça va diluer l'appartenance que t'as sur ton projet, quoi. Moi, je le ressens pas du tout comme ça, quoi.
Ah ouais.
Moi, j'ai le sentiment, au contraire, que grossir l'équipe, ça va me permettre de justement déléguer les trucs qui sont pas ma spécialité et de vraiment m'impliquer sur les domaines sur lesquels je vais être efficace et les faire au mieux possible quoi. Parce que là, du coup, je me suis occupé du marketing, de la presse et tout ça, ce qu'il faut, parce qu'on est que deux, il faut que quelqu'un le fasse. Et j'ai l'impression que j'aurais pu utiliser ce temps à faire mieux. Et même les graphismes, quoi, je les ai faits parce que je sais faire, mais c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire. Et voilà, ces trucs-là, j'ai l'impression qu'il y a des mecs aussi talentueux que moi sur plein de domaines. Et si moi je pouvais me concentrer sur les trucs vraiment que j'ai envie d'approfondir, c'est que tout bénef, quoi. J'ai vraiment pas l'impression que ça diluerait le truc.